Salut à tous, vous êtes sur lebigusa.com, c'est le retour du podcast, c'est le numéro 71, et oui c'est 61e podcast en comptant ce qu'on fait avec DV. Aujourd'hui j'ai un invité que j'ai toujours un grand plaisir à recevoir, parce qu'il vient me voir à Las Vegas, c'est Marc. Marc Ristori, bienvenue.
Merci Steph, comment tu vas ?
Bah non, c'est moi qui demande, comment tu vas ?
Alors écoute, on vient de se mettre des tacos, donc j'ai envie de te dire que ça va super bien, on est là à Las Vegas, il fait beau, soleil, en face de la piscine, c'est
voilà.
Superbe.
On est bien, on est hors de café, en face de la piscine exactement, il fait soleil, il fait beau, et on a plein de choses à se dire. Ouais. Parce que nous on se voit quoi ? On se voit deux fois par an
à Genève et à Las Vegas.
Voilà, donc une fois je viens te voir, une fois c'est toi qui viens me voir.
Voilà, exactement.
Donc, ça c'est du partage. Hein.
Ça fait plaisir, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ça fait plaisir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on a des choses à dire sur Motocross mondial en ce moment, tu peux me parler de Burning Man, s'il te plaît ?
Alors ouais, Burning Man.
Tu peux expliquer ce que c'est un peu aux gens qui savent pas ?
Alors écoute, ce qu'on...
On va pas entrer dans le détail parce qu'on pourrait en parler des heures.
Ouais.
Mais dis-nous un peu d'où tu viens là, pourquoi t'es à Vegas ?
Alors en fait, là j'avais quelques jours à prendre et ça fait quelques années que je voulais aller à Burning Man. Et donc, mois de janvier, bam, j'ai pris ce billet. C'était un peu chaud à choper un billet pour le burning, c'est assez difficile. C'est un coût qui est assez important, donc voilà, il fallait s'organiser. Et là, je viens de passer 7 jours dans le désert à voir des trucs. Tu me demandes de t'expliquer, mais c'est un truc qui se vit. C'est difficile à expliquer ce qu'est Burning Man. Je vous invite à aller sur Internet, regarder 2-3 photos qui circulent. C'est un truc de dingue. Tu sors de là-bas, t'es refait dans tous les sens du terme.
Donc attends, c'est au milieu du désert.
Ouais.
C'est dans un endroit où il se passe rien.
Rien.
Et donc t'arrives avec ton camping-car, tu te poses. Et là t'es avec combien ? Vous êtes quelques amis ? Vous êtes quoi ? 80 000 personnes ?
80 000 personnes, 80 types qui viennent du monde entier. Et ouais, comme tu dis, camping-car. Et tu fais des rencontres de folie. Tu vois des choses que quand même pas t'aurais pensé à réaliser, à faire, à voir que ça existait. Tu vois un avion au milieu du désert, que des types ont 30 gars qui ont traîné cet avion pendant sur des kilomètres et des kilomètres. Et il n'y a pas d'argent sur place, il y a des types qui te filent à bouffer, à boire dans tous les sens. Des spectacles, des camps, des orgies. Alors, je ne suis pas allé aux orgies, mais des trucs que tu... Voilà, je te donne un exemple comme ça, tu vois. Mais
il y a un côté Mad Max.
Il y a un côté Mad Max complet. Il y avait des combats dans le... Pour ceux qui ont vu Mad Max, des combats dans le dôme, en fait. Et les mecs qui se mettent sur la gueule dedans et de manière assez fun, c'est paradoxal, tu vois, mais non, c'était incroyable tu peux photographier ta excuse-moi pour les jeunes, mais tu peux même photographier et tout si tu veux, et mettre dans un tableau, tu vois, des trucs assez incroyables. Côté aussi côté naturiste qui est assez dingue. Je parle un peu du côté un peu je vais pas dire un peu cul, mais un peu voilà. Mais il y a aussi tout le reste, hein. Il y a la médite, il y a des œuvres de tout et de rien. Et tu peux faire du skate, tu peux faire du basket, tu peux faire du football américain au milieu du désert. Tu peux tout faire.
Et franchement,
tu prends pas de douche pendant une semaine. ouais. T'es plein de sable, mais t'es heureux d'être plein de sable en fait.
Et comment tu fais pour pas aller sur le Big USA pendant une semaine ? Ça va être dur, non ?
Ah purée, ouais, c'était chaud, surtout en ce moment. Surtout en ce moment avec l'actualité, avec les nations qui approchent, la fin du championnat, il y avait la finale de l'US aussi que j'ai loupé. Donc voilà, pas de lobby USA, et puis mais tout content de retrouver les news en fait, de se dire voilà, tout ce qui se passe dans cette société de consommation, tout ce qui se passe en une semaine. Donc ouais. Donc voilà, me voilà de retour à la réalité.
C'est dur ?
Alors après cette expérience là, c'est particulier. Parce que tu vis des choses tellement exceptionnelles,
tellement fortes,
tellement fortes humainement, que tu as envie d'y retourner, tu as envie que ça continue plus longtemps encore. Mais voilà, c'est un monde à part, c'est quelque chose qu'il faut vivre. En respectant ces 10 commandements, c'est important de le souligner. C'est la décommercialisation, c'est le partage, c'est plein de choses, quoi. Il faut être aussi dedans pour bien vivre cette expérience. Moi, je suis dedans, donc c'était, je me suis pas retrouvé totalement perdu là autour, donc voilà, mais content d'être là et de quand même ce retour à la réalité. Je suis bien dans, on va dire, dans ces deux mondes.
Bah en tout cas, merci pour cette parenthèse. Donc on vous invite à aller faire recherche, taper Burning Man dans Google.
Ouais.
Pour ceux qui ne connaissent pas, à mon avis, vous allez être étonné.
Ou sur ma page, sur Marc Ristori, vous avez quelques photos que j'ai mis, donc vous pouvez y aller, quoi.
Voilà, on va parler un peu de la fin de la Outdoor, puisqu'on en, c'est pas si loin que ça. Fin Outdoor US, on va commencer par les. On va parler de 2,5, mais très rapidement, je sais pas, Aaron Plansinger qui a un peu dominé le championnat. Dylan Ferrandis qui a pas roulé au début du championnat et qui a fait des hauts débats. T'as suivi un peu tout ça en 2,5?
Alors j'ai suivi tout le début du championnat. Le milieu, mais moins la fin, je veux dire, parce que de toute façon, j'ai peut-être pas là pour la dernière, mais de toute façon, dès qu'on parle de l'US, je suis. J'étais surpris, vachement surpris par Plessinger. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant en outdoor. J'avais pronostiqué Martin. Donc, bon, après, il y a eu cette blessure, il y a quand même eu beaucoup de blessés cette année, j'ai envie de dire, dans tous les championnats, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites. Super content du retour de Dylan, en fait. De la victoire. J'avais assez pronostiqué aussi ce fait d'arriver, de gagner, de redescendre à un moment. C'est un peu logique, j'ai envie de dire.
Parce qu'il avait fait aussi l'année dernière, un petit peu, pour sa première.
Mais là, c'est encore un peu différent parce que je pense qu'il y a quand même ils ont quand même bossé fort avec DV, on les a vus sur les vidéos. L'endroit où DV l'a emmené à l'entraînement, j'y suis allé en compagnie d'Arnaud Tonus il y a 2 ans en arrière. J'y suis allé en hiver, en été, attention. Faut vouloir aller s'entraîner là-bas 2 jours par semaine, là. C'était la photo où il y avait le bateau là. Franchement, les mecs c'est des bosseurs quoi. On sait que DV c'est un monstre de travail à l'époque. Plein de gens le savent pas, mais j'ai eu la chance de côtoyer DV. Il travaillait mais d'une manière illimitée. Les mecs pensaient qu'il avait un truc en lui, mais
les mecs se rendent pas compte de ça.
Ils se rendent pas compte. Non, j'avais déjà dit dans un ancien podcast, mais les mecs se rendent pas compte à quel point DV il a travaillé. Les conditions dans lesquelles il a travaillé, où il habitait. DV, il habitait dans un hangar. Je le répète, mais les gens ne se rendent pas compte. C'était un hangar. Moi, je l'ai vu habiter dans un hangar. Je l'ai vu se faire des pattes dans un réchaud et gagner des finales de championnat américain le week-end. Donc voilà, quoi. Et puis, dormait dans un hangar. Quand je dis un hangar, il ne faut pas imaginer un hangar américain monstrueux. Je vous parle d'un parking de bagnole, hein, où tu mets qu'une bagnole dedans. Donc, c'était fou, quoi. Donc, voilà. Et puis, il a donné ce truc à Dylan. Fait de travailler, et puis de toute façon, je veux dire, on le sait aujourd'hui, sans le travail, t'as que dalle. Donc, même si tu peux être talentueux ou pas talentueux, on va pas revenir sur ce sujet, mais pas de travail, que dalle.
Tu te situes où? J'y arrive pas. Hein.
Ouais.
Alors, je recommence. Où te situes-tu sur le sujet du talent d'ailleurs? J'ai réussi à poser la question, putain.
Alors, moi,
on a déjà parlé tous les deux.
On en avait déjà parlé. Moi, je pense que le talent, c'est assez simple. C'est que à la base, t'as un petit truc. T'as quelque chose qui se passe, t'as quelque chose en toi, t'as une facilité pour le sport en général ou pour un sport en général. Maintenant.
Qui se limite pas qu'au sport d'ailleurs.
Qui se limite pas qu'au sport, exactement. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que tu as tellement de paramètres dans le sport de haut niveau que le mec qui est talentueux et qui travaille pas, il gagnera pas. Tu prends des mecs comme Stewart, comme Dungy, comme Carmichael, comme JMB, comme Pichon, Tortelli, qui je pense était le moins talentueux de tous ces mecs. Mais qui avait peut-être quelque chose à la base aussi, mais tu vois que c'était une force de la nature, c'était un travailleur. Avec Vimon, il a dû en passer des heures, ça devait être une rigueur assez folle. Et moi j'ai vu DV travailler, les jambes en X, le bordel, le truc, voilà. Un travailleur, nos limites. Donc je comprends tout à fait quand il dit qu'il n'y a pas de talent, il y a du travail. Si tu vas dire à un mec que le talent ça suffit, un jeune, aujourd'hui tu lui dis écoute, avec le talent que tu arriveras à être champion américain. Tu lui mets à l'envers. La réalité est là, quoi.
Donc, et on peut avoir du succès sans avoir du talent aussi.
Oui.
C'est très important.
Complètement.
Il faut pas que les jeunes se sentent repoussés, refoulés parce qu'ils pensent ne pas avoir de talent. Il faut aller au bout de ses rêves et surtout et tout donner. Parce qu'au final, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a que le travail qui paie.
Complètement. Après, je pense que c'est vraiment une question de productivité. Tu as des mecs qui ont un potentiel de 100% qui utilisent le 50% et tu as des mecs qui ont un potentiel de 60%. 70, 80 et qui utilisent leur 80 potentiel. J'ai roulé avec des mecs à l'époque, je vais te donner un nom au hasard, Peter Ivan, putain, ce mec-là, il mettait des points au championnat du monde. Quand il finissait devant moi, je comprenais pas. Je me disais, mais mec, comment ce type peut faire devant moi? Quand je le regardais rouler, j'avais juste envie de rentrer chez moi et de me dire, mais arrête la moto, arrête tout. Et ce mec-là, il travaillait plus que moi, certainement, parce qu'il partait avec un retard, j'ai envie de dire, sur moi. Et sur moi et sur d'autres. Et ce mec-là, il faisait dans les 10 championnats du monde. Tu prends des mecs comme Marding Berwoods, Je veux dire, c'était pas des foot de guerre au niveau du talent. Pete Bearer, tu voyais rouler à des moments Pete, tu te disais, mais c'est tendu quand même, tu vois, je veux dire. Et ce mec-là a gagné des grands prix. Donc, travail. Donc, avec le travail aujourd'hui, tu peux vraiment aller très loin. Mais faut pas essayer de faire ce que tu sais pas faire. Faut optimiser ce que tu sais faire et ce que tu as en toi, en fait, concrètement. C'est comme ça que je vois le truc, quoi.
Dylan Ferrandis, pour toi, c'est le futur du motocross français ?
Ouais. Pour moi, Dylan, c'est impressionnant à plein de niveaux. J'adore son look. Plein de gars se foutent de la gueule de son look. Quand il a la moustache, tu sais, le machin, il y en a plein qui adoraient, plein qui n'aimaient pas. Moi, j'adore. J'adore parce qu'il a du style. Il est hargneux. Vraiment hargneux, tu vois. Il attaque. Il s'en bat les couilles aussi. Donc, il s'en bat les couilles de ce qu'on peut penser. Il parle à sa manière, tu vois qu'il est lui, il enfile pas un costume. Donc j'aime beaucoup ce côté de Dylan.
Tu crois que ça va tenir, ça ? Parce que alors, ce côté un peu rebelle que je comprends tout à fait, et moi j'adore beaucoup aussi parce que sur le Big on est un peu comme ça. On essaye de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas et on s'en fout de ce que les gens pensent. Mais des fois on est rattrapé, et surtout dans le domaine, les sponsoring, etc., t'es rattrapé et finalement tu te rends compte que. Bah finalement tu peux plus dire ce que tu voulais dire avant. Quand tu deviens plus grand, quand tu, je sais pas, pour Dylan, est-ce que tu crois, bon, cela dit, encore une fois je me perds dans mes pensées, mais on avait dit la même chose avec Ken Roxen chez Honda. Et finalement on se rend compte que pas du tout, il continue à faire et à dire ce qu'il veut.
Mais complètement, moi je pense que c'est important. Maintenant, Ken, pour moi c'est le meilleur pilote qui existe aujourd'hui en activité, sans forcément regarder les résultats, mais par où il est passé encore cette année. Pour moi, c'est le number one. C'est le meilleur pilote qu'il y a actuel. Il y en a qui vont dire, mais il n'y a que les résultats qui comptent. Je comprends complètement cette vision. Pour moi, le meilleur pilote du monde.
Cela dit, les résultats qu'il a eu en outdoor, il n'y a pas de quoi rougir. Il n'y a pas de quoi rougir.
Complètement. Mais du coup, il n'est pas champion. Donc, on va dire le meilleur, c'est le champion. Tu vois, mais pour moi, il n'y a pas photo. Ken Roxen, c'est le number one. Ce qui se passe, c'est que tant que tu roules bien, tu peux avoir le look que tu veux, concrètement. Regarde Chris Purcell à l'époque. Quand il avait ses cheveux longs, qu'il avait ses dégaines de fou, qu'il mettait des vidéos que jamais personne n'aurait osé mettre, il était devant, ça jouait. Le jour où il était plus devant, il s'est fait démonter. Donc, Dylan, je ne veux pas comparer Dylan à Chris, ces deux personnes étaient totalement différentes. Je pense que Dylan, c'est la même chose. Ça veut dire qu'à un moment, ça risque de coincer. Au moment où il y a un mec qui sera peut-être sur la sellette, une année avec blessure, deux années avec blessure, tu es sur la sellette. Et suivant ce que tu dis, ben, le contrat, tu le signes pas. Nous, on a l'exemple parfait en Suisse, c'est Federer. Federer, il a son look, il a une espèce de déguisement. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il est toujours clean, toujours parfait. Il est à l'image que la Suisse a envie de mettre en avant ses athlètes. Moi, je le cautionne pas du tout. Mais voilà, il n'y aura jamais de problème. Parce que derrière, s'il veut travailler un jour... Il va travailler pour une boîte de folie, il va avoir une reconversion de dingue parce qu'il est politiquement correct, politiquement parfait. Il a eu deux fois des jumeaux, je dis c'est un truc impensable quoi. Donc voilà, il est clean, il est nickel, il gagne des tournois encore aujourd'hui.
C'est un cancer le politiquement correct ?
Pour moi, ouais. Pour moi, c'est. Si tu me parlais du
Burning Man. C'est facile de te donner ça alors que tu reviens de Burning Man.
Voilà, justement, c'est ça que j'allais te lancer là-dessus. Pourquoi aujourd'hui tu peux pas avoir, tu peux pas être toi-même, avoir ton look et être un mec cultivé, intéressant, avec de la conversation, de où tu dois avoir une coupe de cheveux parfaite, en parlant parfaitement. J'ai jamais apprécié Dungy. Jamais. Alors on parle pas du pilote.
Du personnage.
Du personnage. Pourquoi ? Parce que imagine demain t'as que
comment
des Dungy.
Comment tu peux pas ne pas aimer un personnage qui est lisse en fin de compte ? Parce que justement, il n'y a rien qui dépasse. Donc, tu peux que apprécier le fait que... Non ?
Ou pas.
Ou pas.
Imagine, on fait un sport qui s'appelle le motocross. On a eu la chance d'avoir, qui ont fait l'histoire de notre sport, on a eu des Decoster, on a eu des Ricky Johnson, on a eu des O'Mara, on a eu des Bailey, on a eu des Mikey Lee.
Moi, j'adore Bradshaw.
Des Bradshaw. Moi, j'adorais Mikey Lee, j'adorais Bradshaw. Et j'adorais Bailey. Tu vois ce que j'adorais ? Tout et son contraire. Et aujourd'hui, un Barcia est super important. Malcolm Stewart est super important. Erlings, dans son caractère, est super important. Le mec, il décrit Erlings, il dit ah, c'est pas bien pour le sport, c'est pas bien pour l'exemple, il y a quelques années. Chris Purcell, c'est pas bien. Mais de où Chris Purcell, c'est pas bien? De où Erlings, c'est pas bien? Si t'as pas de Chris Purcell, si t'as pas d'Erlings, tu peux pas apprécier un Dungy. Si t'as pas un Roxanne, tu peux pas apprécier un Dungy. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Dungy est aussi très important dans le sport. Très, très important dans le motocross, tu vois. Et puis même des Gauthier Paulin, on en parlera après, mais Gauthier est super important dans l'image du motocross actuel. Il a son côté, j'ai envie de dire Côte d'Azur, son côté un peu bling-bling, un peu qui aime les belles choses, les belles bagnoles, les belles montres. C'est super important. Mm-hmm. C'est la diversité de notre Bien milieu qui fait sa richesse.
Et tu parlais de tennis tout à l'heure. Pour les vieux de la vieille qui s'en souviennent, heureusement qu'on a eu des Connors, heureusement qu'on a eu des Jim McEnroe.
Des Bjorg.
Exactement.
Jim Bjorg.
Exactement.
Mais quand tu vois un match de Bjorg contre McEnroe, moi, ça me fait 100 fois plus plaisir que de voir un Federer contre un Djokovic.
Ouais.
Et je suis suisse. Ouais. Et je kiffe mon pays.
Ou un Pete Sampras à l'époque.
Heureusement qu'Agassi était là.
Bien sûr.
Moi, aujourd'hui, quand tu me dis les pompes que j'ai achetées à l'époque, c'était des André Agassi. J'allais pas t'acheter des Pete Sampras. Hein. J'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on parle de qui? On parle de Agassi encore aujourd'hui, tu vois. On parle de Steffi Graf, de Agassi, on parle de ce style d'athlète. Dans le football, c'est la même chose. Ibrahimovic, il n'y a qu'à voir l'impact d'Ibrahimovic à Los Angeles Galaxy, tu vois.
Bien sûr.
C'est important, ces mecs-là, ils sont importants. On revient à Dylan. Dylan est très important dans le paysage.
Dans le paysage.
Du motocross. Mm-hmm. Et Marvin aussi. Qui est le contraire un peu de...
Bien sûr.
Il n'aura jamais le look de Dylan, on est d'accord. C'est pas sa personnalité, c'est pas son look, mais il est très important. Donc pour moi, tous ces gars, c'est important. Et les mecs, ils me ramènent toutes les 30 secondes pour le sport. C'est important de parler comme ça. Mais arrêtez de formater les athlètes. Vous voulez quoi? Que des mecs comme les MotoGP? Des mecs petits, d'1m50, qui envoient des bisous à la caméra? Faut arrêter. Il faut des Gobert à l'époque... comme l'anglais, tu sais, il y a un anglais qui est vraiment cool actuellement, comme des Crochelot, des mecs comme ça, tu vois. Il faut des mecs comme ça, il faut des Rossi, des Crochelot. Il faut tout et son contraire, je pense, dans le sport pour attirer le plus de monde possible. À mon sens, après, c'est comme mon avis.
Et on peut même, c'est une bonne transition, parce qu'on peut parler du coup d'Eli Tomac, qui a un peu ce côté policé, qui a un peu ce côté Dungy, non?
Il a un peu ce côté Dungy.
Mais pas de la même façon.
C'est un peu différent parce que je pense qu'il fait pas exprès. Je pense qu'il est comme il est. C'est-à-dire qu'il se donne pas un peu cette image. Tu sais, parce que je pense que Dungy, c'est le premier à s'énerver quand personne voit comme les caméras sont pas là, tu vois. Parce que sinon, il serait pas là où il est allé, hein. Faut pas rêver. Hein. Federer, c'est la même chose. Donc, on est Federer depuis la Suisse, mais c'est le premier à péter des raquettes dans les vestiaires, tu vois. Donc, il y a eu des DVD sur Federer. On connaît son caractère, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, Tomac, je pense qu'il est... C'est un compétiteur, c'est du business. Lui, il veut gagner. Le reste, il s'en fout. Mm-hmm. Toujours la même coupe de cheveux, je pense qu'il n'a pas changé depuis ses 2 ans. Mais voilà.
Tu dis ça ironiquement, non?
Non, mais c'est vrai, tu as vu, je veux dire. C'est impressionnant.
Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il n'ait pas changé sa coupe depuis qu'il est 2 ans?
Exactement, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est...
Non, t'es parti pour juger, là. T'es parti pour juger.
Mais tu vois, Tomac...
Parce que tu changes de coupe que tu deviens un rebelle.
Complètement. Mais comme
encore une fois, je termine sur ma pensée.
Ouais.
Si du jour au lendemain, Tomac change de coupe pour être rebelle, tu dirais ah, attends, tu te fous de ma gueule.
Tu nous prends pour un con. Mais quand je lis t'as vu quoi? C'est ça. Hein, c'est, ouais. Qu'est-ce que t'as vu quoi?
Tu
me dis encore une faute de Tomac qui sourit pas. Tu vois? Donc mais il est important. Il est important.
Mais alors si je peux rajouter un truc, une coulisse et les gens aiment ça, Tomac est foncièrement timide.
Ah, c'est, ouais.
Il aime pas les interviews.
Ouais.
Et je pense que c'est un viol à chaque fois qu'il monte pas sur scène, mais qu'il est sur le podium. Sur le podium, ça va encore. Mais en conférence de presse, et après quand je le cours après pour l'interview, il se retourne, ah putain le big, tu fais chier. Mais il va le faire,
ouais.
Parce qu'il a des obligations, etc. Mais foncièrement, je pense que c'est un mec qui est timide et c'est un chasseur, tu vois, c'est un mec de la terre, je veux dire paysan, mais c'est pas péjoratif du tout.
Complètement.
Tu vois, c'est un mec qui a les pieds sur terre et dit, ok, j'ai roulé, j'ai fait ça, mais c'est bon, quoi, on va pas en parler, ouais. Prendre des heures.
Donc il est là pour faire sa course, comme je disais au départ, pour gagner, il a des contrats, il travaille la semaine pour gagner, ils dépensent aussi beaucoup d'argent pour gagner, les entraîneurs, les machins, comme beaucoup de ces mecs qui sont devant. Il est un compétiteur. Maintenant, la réaction qu'il avait eue suite à l'accrochage avec Marvin, j'ai adoré. J'ai adoré. Parce qu'il est sorti un peu de ce mutisme, j'ai envie de dire. Il a eu une réaction spontanée au moment où il s'est fait découper. Et en interview, il a une réaction. Et c'est important. Ouais. C'est important de voir ce genre d'action dans notre sport. Le jour où on perd ça, on perd tout. Faut pas rêver, on perd tout. Donc il faut ce genre d'attaque, ce genre de. Il faut que les athlètes de haut niveau soient repoussés dans leur retranchement dès le moment où ça ne les met pas en danger. Parce que c'est un sport dangereux, où il peut y arriver beaucoup de choses, comme vous le voyez tous les jours, encore avec Bellino dernièrement, des trucs dramatiques. Tu peux mourir en moto, tu peux finir paraplégique en moto, tétraplégique, plein de choses, estropié, peu importe. Donc tant que ça ne met pas en danger l'athlète, je pense que c'est important qu'on puisse aujourd'hui tout voir dans notre sport.
Je continue sur Tomac, donc, qui gagne ce championnat outdoor pour la deuxième année consécutive, deuxième fois contre Marvin. J'ai envie de dire, et en même temps, c'est un beau champion Tomac, hein, y a rien à dire. Il a gagné 8 courses cette saison, là, c'est celui qui en a gagné le plus, il le mérite.
Moi je pense, ouais. Je pense que en Supercross c'est celui qui avait gagné aussi le plus de victoires. On sait que ça pardonne plus à l'erreur en outdoor qu'en Supercross. Supercross, quand tu fais une erreur, en général c'est la blessure et puis c'est difficile de revenir en Supercross beaucoup plus qu'en outdoor. Surtout que quand tu vois les chronos cette année, on est quand même des fois 3, 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes au dixième, au tour, ça quand même à faire beaucoup de secondes. Moi je trouve que c'est cool que Tomac soit devant.
Ça reste un beau champion.
Perso, je suis pour Marvin, mais c'est un beau champion, c'est un travailleur, c'est un gars qui est important. Et ça montre ce que tu disais avant, que le travail est important. Et qu'à la fin, c'est quand même le mec qui travaille qui gagne. Tu vois, ça veut pas dire qu'il travaille pas Marvin. Hein.
Ouais, justement, j'allais te poser la question. Donc il y a cette frustration quand même de se dire putain, je travaille comme un ouf. Et lui, il est devant moi. Donc ça veut pas dire que Tomac travaille plus.
Non, ça veut pas dire que Tomac travaille plus.
Psychologiquement, comment tu te situes là-dedans? Parce que tu l'as vécu ça, me disais tout à l'heure.
Je l'ai vécu à un autre niveau, mais à la fin, ce qui compte c'est quoi? C'est d'avoir travaillé le maximum. Après c'est des détails. Tu sais, t'arrives un peu trop vite ou pas assez vite. T'as un peu moins bien mangé pendant la semaine. Tu as un truc qui t'a un peu dérangé, tu as lu un commentaire qui t'a cassé les couilles à un moment, qui va faire que tu vas perdre peut-être 3 points là, 2 points là, 10 points là, tu n'es pas concentré à ton départ, tu pars 5e au lieu de partir 1er. À la fin, c'est ça. Le haut niveau, c'est des détails. C'est des détails qui font que Tomac n'arrive pas à les rassembler en supercross et c'est un peu plus facile pour lui par rapport à son style, par rapport aux erreurs qu'il peut faire, c'est un peu plus facile pour lui de les rassembler en outdoor en fait. Concrètement, mais à la fin, ce qui compte, c'est quoi? C'est de travailler. Puis tu fais le bilan à la fin de ta carrière.
On sait que Marvin travaille. Donc, d'après toi, qu'est-ce qui lui manque pour être au niveau de Tomac? C'est une question à $1 million. Hein. Je peux dire qu'il se pose la question aussi, à mon avis.
Ouais. Moi, je trouve il y a beaucoup de choses. La réponse, je la connais pas. Je pense que personne la connaît.
Il y en a peut-être pas.
Il y en a peut-être pas. Mais je trouve Tomac très fort. Physiquement, très très fort. Il peut engager la moto de manière comme personne peut le faire. Et ça, je pense, c'est une petite différence qu'il peut y avoir sur certains circuits où vraiment il a cette force de la nature. Tu sens qu'il appuie sur l'avant à des moments, qu'il arrive à engager de manière personne n'est capable de le faire. Et ça, je pense que ça peut être un moment sur certains circuits. Une différence. Au moment où il doit revenir de loin, au moment où il doit compenser physiquement, il arrive à faire des chronos qui sont, on l'a vu cette année, des chronos qui ça veut rien dire. Quand tu commences à mettre 3 secondes ou 4 secondes autour à des types, c'est quand même que physiquement il se passe quelque chose. Tu vois.
Donc tu rejoindrais un peu l'analyse de DV qui pense sérieusement que Marvin doit se muscler, quoi,
oui.
Doit prendre du poids.
Je pense que pour la compensation, je pense qu'à un moment, la finesse de Marvin peut manquer un peu. C'est ce que je pense. À un moment, sur deux épreuves, sur la saison, sur deux, trois, quatre épreuves, il manque un peu de force. Et tu le vois dans les hoops, parce qu'il y en a qui vont parler de la taille de Marvin. Webb, il est petit, tu vois, mais il est un peu plus fort que Marvin. Et à un moment, tu vois que Marvin est un peu chahuté, tu vois. Et je pense qu'il manque un petit peu de force, ouais. Après, moi, j'ai jamais passé les hoops comme Dévé les a passés. J'ai jamais passé les hoops comme Marvin les a passés, comme tous ces mecs en finale les ont passés. Donc je peux pas, je n'ai pas les compétences de te dire ce que Marvin doit faire. Je suis pas Marvin, je suis à des années-lumière de Marvin, tu vois. Donc voilà quoi. Mais j'ai l'impression quand même de l'extérieur qu'il manque un peu de force.
Supercross 2019, c'est l'année pour Marvin ?
Ça devrait. Ça devrait. Maintenant, tu as Marvin, tu as Tomac, tu as Ken, tu as Anderson. Webb, il a signé KTM, je sais pas, pour finir, ça s'est fait, pas fait. C'est...
Bon, il a signé une lettre comme quoi il allait signer, enfin ça se faisait, mais okay. Bon, c'est pas officiel. Officiel, pardon. Mais oui, a priori, c'est.
Je pense que Webb, ça peut être un concurrent. Parce qu'il y a
Barcia.
Barcia, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Donc,
enfin, on dit ça chaque année. Hein.
Ouais,
Jusque les mecs se blessent un par un et qu'il n'en reste plus que deux. Mais...
Exactement. Mais de nouveau,
ou trois.
Ceux qui vont jusqu'à la fin de l'année, concrètement, c'est toujours les mêmes. C'est toujours ceux qui sont le plus affûtés. C'est toujours, tu vois, physiquement, tu vois un Webb, tu vois que physiquement, ça joue pas. Et à un moment donné, tu vois comment il laisse David ses joues, ça joue pas. Tu vois Ken. Une machine.
Tu l'aimes bien, Ken.
Moi, j'adore Ken. J'adore Ken parce que faut avoir côtoyé le haut niveau pour se rendre compte à quel point.
Il revient de loin. Je t'enlève les mots de la bouche, excuse-moi.
Putain, c'est un truc de fou. Mais tu vois travailler. Je veux dire, tous les mecs qui travaillent actuellement, quand tu vois ce qu'ils soulèvent, tu vois les exercices qu'il fait, c'est une machine. Tu vois que c'est un athlète. Tu vois que Tomac, c'est un athlète. Anderson, peut-être ils le mettent moins après dans les vidéos, tu vois. Marvin, je sais pas s'il est capable de se lever autant, c'est peut-être pour ça qu'il le met pas, tu vois. Maintenant.
Marvin met des vidéos de chats.
Voilà,
donc c'est, moi je trouve ça mignon. Ouais. Ça change un peu de.
Ça change, voilà. Mais c'est top, tu vois, c'est top. Mais tu vois qu'ils sont physiquement affûtés.
Marvin est affûté, c'est une ablette, il doit avoir 2% de
ouais.
gras.
Non, mais il est affûté avec voilà, il a le sternum qui est devant les pectoraux, tu vois. Mais ça, c'est un truc, je sais pas comment c'est possible.
Ça.
Tu vois, ouais, regarde bien, il a le sternum devant les pecs. C'est un truc de fou. Le premier truc qui tape, c'est pas les pecs, c'est le sternum. J'espère juste qu'il met un plastron, tu sais, vraiment fortifié et tout, parce que c'est un truc de fou. Mais tu vois que les mecs qui arrivent à la fin de la saison, de manière générale, ils sont préparés. Voilà, il n'y a pas photo, ça manque peut-être de muscles, mais après, il a la morphologie qu'il a. Je pense pas qu'on peut dire à Baker comment il doit préparer Marvin.
Non, je pense que...
Je pense pas.
Je pense que de ce côté-là, il est OK.
Donc, s'il a moins de force, peut-être qu'il est morphologiquement fait de manière différente, on est d'accord. Michael est fait aussi de manière différente. C'est dans les gènes. À un moment donné, tu peux pas en faire des Golgoth. Tu vois, Stewart avait le physique qu'il avait. Tu vois, Malcolm Stewart aussi. Tu vois, voilà.
C'est frustrant pour un pilote de se retrouver dans une année ou même une décennie si tu roules longtemps avec un mec que tu peux pas battre. Alors, je parle de DV avec Ricky. Je parle de Windham avec d'autres. Et là, est-ce que le Tomac, ça serait l'ange noir de Marvin? Si Thomas n'était pas là, il serait gagnant. Enfin bon, après, avec DC, il se passe plein de choses. Mais
alors,
c'est frustrant de tomber dans ces années où tu peux rien faire. T'as un mec qui est devant toi.
Alors, je pense que de plus en plus, avec l'évolution du sport de haut niveau, il y aura toujours deux ou trois pilotes qui seront là pour t'enlever la victoire. Maintenant, je pense vraiment que Marvin peut battre Thomas, si tu veux. Et... avec un Roxel.
Il l'a fait. Il l'a fait la régulière. Ouais. On n'a aucun doute là-dessus.
Je pense complètement. Avec un Roxel à 100%, pour moi, est beaucoup plus dangereux qu'un Tomac. Parce que non seulement il y a le travail, mais il y a tout le reste.
Il y a la tête.
Il y a la tête.
L'effort.
Il y a le travail. Ouais. Il y a cette rigueur du pilotage qui est incroyable. Et il y a vraiment tout chez Roxane. Maintenant, il y a ce côté physique qui est quand même, faut pas rêver. Roxane, il est amoindri avec son physique.
Bah, DV dit qu'il roule sans bras. Donc,
À 100% il dit lui ?
Sans bras.
Donc, sans bras. Qu'il a pas de bras. Ouais, complètement. Moi je pense que.
En rigolant bien sûr, hein, parce que je l'ai vu, il a des bras. Hein.
Mais je pense que Roxane roule, va rouler à 80% de ses possibilités jusqu'à la fin de sa carrière.
Ah, t'en es là toi ?
Ouais.
Ah ouais.
Ouais, j'en suis là. Tu sais, quand t'as un coude qui se tend pas, on fait de la moto. Tu pilotes avec les jambes, mais t'as un coude qui se tend pas, t'as des mains, des doigts pétés, des bordels, des machins. La récupération, après avoir fait, il y a 14 épreuves d'outdoor,
17
supercross, les tests, les machins, les trucs. Tu te mets une boîte sur ton bras, t'as mal, c'est le coude. Je connais un peu les problèmes de coude parce qu'Arnaud Tonus a eu ce problème de coude pendant des années. Il a arrêté de rouler pendant un an. Quand il avait 14 ans, 13-14 ans, t'as toujours mal au coude. Ça te fait des tendinites, ça te monte jusque dans l'épaule, ça descend jusque dans les avant-bras. Moi, je pense que Roxane, il dit pas la moitié des problèmes qu'il a, perso.
Je pense aussi, sérieusement.
Franchement, le mec, à mon avis, il se concentre sur sa compète, il roule à moto, il fait le mieux qu'il peut et il parle pas de ça. Jamais vu Ken se plaindre de quoi que ce soit. Concrètement, les meilleurs, ils se plaignent pas. J'en ai pas vu un se plaindre de quoi que ce soit. Ni d'il avait mal à quelque part, ni d'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ils font la course, elle se passe comme elle se passe, et ils font la course d'après. Et même à la fin de l'année, il y en a un qui a gagné, il y en a un qui a fait deuxième, il y en a un qui a fait troisième, et ils sont concentrés sur 2019. Mmh. Il est terminé.
Marvin, quand s'est fait mal à l'entraînement, et on l'a pas su. Je veux dire, il l'a dit au dernier moment dans l'interview, parce qu'on se demandait un peu ce qui s'était passé, pourquoi il avait roulé un peu en dedans. Et c'est vrai qu'il ne cherche pas des excuses. Il s'est passé ça, ça arrive, comme tu dis, c'est dangereux, on se blesse, mais c'est tout quoi, c'est pas une excuse.
No excuse. J'ai vu Marvin à l'entraînement il y a 2 ans en arrière, sur le terrain KTM, il se prenait un tour, peut-être ils font des manches, tu as commencé avec Baker, ça part, ça fait des manches pendant 20 minutes ou 20 tours, peu importe. Il se prenait un tour au début de la saison, à 2 semaines de l'ouverture à Naïm. Tu te dis, tu te fais mettre un tour à chaque manche que tu fais par ton coéquipier. En plus, ton coéquipier, c'est ton premier concurrent quelque part, tu vois. Puis il y avait Anderson en plus. Donc il se prenait des tours dans la gueule. Ça veut dire qu'il prend 3 tours en 3 manches, tu vois. Et le mec, au milieu de l'année, souviens-toi, je crois qu'il gagne une manche où il y a la manche qu'il a juste pas gagnée à cause de l'histoire avec Stewart, tu vois. Et là, ce jour-là, quand tu vois le mec se faire mettre des tours à l'entraînement, et à la fin de l'année faire 2 ou 3 ou se battre avec Dungy, tu te dis ce gars là c'est un monstre. Marvin pour moi c'est un, mais tous hein, mais le fait que je le connaisse un peu plus, le fait que j'ai été témoin de tout ça, c'est exceptionnel.
Donc,
exceptionnel.
Comment t'expliques
deux ligaments croisés du genou, deux ligaments comme Carmichael, comme Villopoto, comme tous ces grands qui sont revenus.
Donc comment tu expliques concrètement, et avec toute l'honnêteté, qu'il n'est pas motivé pour une nation.
Si tu veux, c'est le terme, la phrase, pas motivé pour les nations.
Qui n'est pas de lui, donc, bien sûr. C'était ironique. Hein,
ouais, complètement. Mais moi, par contre, je vais te répondre. Je vais pas te répondre en tant que sélectionneur. Je vais te répondre en tant que Marc Ristori.
Et on peut le rappeler, oui, que tu es sélectionneur de l'équipe suisse, pour ceux qui ne le savent pas.
Parce que je suis aussi face à certaines problématiques de sélection, on en parlera peut-être après si t'en as envie, de dire, de sortir la phrase pas motivé, en pensant que ce mec-là n'est pas motivé, c'est d'une incompétence totale. Je parle de la phrase.
C'est pas une insulte en même temps.
C'est un manque d'humilité, c'est une insulte, c'est un manque de respect à tout point de vue. Je vais dire pourquoi, c'est simple. C'est mon point de vue, hein. C'est pas le point de vue de. Chacun peut avoir son point de vue. Pas motivé. Marvin Musquin, depuis qu'il est passé KTM, qu'il est passé du team NGS au team KTM, où il a commencé à faire des résultats exceptionnels, 2 titres de champion du monde, titre de champion US, vice-champion, gagner les nations, écrit l'histoire de la France. Parce que Marvin Musquin a écrit l'histoire du motocross français. Ce mec-là, j'ai jamais vu Marvin Musquin mettre ses lunettes, mettre son casque et ne pas rentrer dans les 10 premiers. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai jamais vu ce mec-là ne pas donner le 100% de ses possibilités à l'entraînement. Alors, j'ai pas vu tous les entraînements, évidemment. Mais toutes les courses qu'il a faites depuis toujours, hein, mais depuis qu'il est devant et qu'il se bat pour la victoire chaque année, je veux dire, j'ai jamais vu ce mec être en dehors des 5 premiers ou des 10 premiers. J'ai jamais vu. À part si tout d'un coup il y a une monstre chute ou il y a un problème, j'ai jamais vu ce mec abandonner de manière volontaire. Tu as vu Marvin gagner une course de supercross, quelle qu'elle soit, Paris, Genève, la Monster Cup, les nations. Le mec, comment il est heureux d'avoir gagné. Ce mec-là, c'est un winner. Il se met sur une grille départ pour gagner. Point barre. De dire qu'il serait éventuellement pas motivé, peut-être par des réactions qu'il aurait peut-être pas voulu aller se déplacer en Angleterre, en Lettonie, peu importe où. Ce mec-là, s'il va, il se déplace sur une course, c'est pour gagner.
Donc quand Jacques Boll dit qu'il n'a pas été choisi parce que les autres étaient plus motivés que lui, c'est inexplicable. Enfin, on essaye, ça fait maintenant quelques semaines qu'on a pris parti sur cette décision-là, avec DV, avec le site, les commentaires, les abonnés, les gens qui commentent. Personne ne comprend.
Alors, il faut savoir un truc, c'est que...
Personne ne comprend la décision. J'explique bien, on en a reparlé tout à l'heure. L'équipe, je la comprends. Peu importe, tu veux prendre des risques. Ouais. Ils ont gagné sans Marvin avant. Ils gagneront sans.
Ils peuvent gagner sans Marvin.
Voilà, ça ne change rien. L'équipe, elle est ce qu'elle est. On est d'accord avec ça. On respecte ça. Maintenant, c'est cette décision et ce choix de mots motivés que tu viens de le dire. Tu l'as dit. C'est pas un mot qui va à Marvin.
Alors, le truc qu'il y a, c'est que. J'ai écouté le commentaire de M. Boll par rapport à comment était faite la sélection. Déjà, le premier problème, il est là. Moi, je suis sélectionneur de l'équipe de Suisse. Je choisis qui va aux nations.
Donc, tu n'as pas le directeur au-dessus?
Non. Non.
Comment il s'appelle d'ailleurs, le vôtre?
Alors, si tu veux, tu as la fédération.
Okay.
Tu n'as pas un consensus où tu as plusieurs personnes à la fédération qui vont, mais c'est totalement différent que la Fédération Française de Motocyclisme.
Ouais, mais tu rends bien des comptes à quelqu'un, non?
À la Fédération.
D'accord. Mais pas à une personne en particulier.
Non, je ne rends pas compte à une personne en particulier.
Donc c'est pour ça que c'est toi qui fais le choix.
Je fais le choix de la sélection.
D'accord.
Si demain, en tant que bénévole, moi je suis bénévole, en tant que bénévole, et que je ne peux pas sélectionner les pilotes que je souhaite à la base. Après, il y a plein de problématiques qui se posent. Hein. Il y a des pilotes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas rouler dans tel ou tel cylindrée, des teams qui ne veulent pas mettre telle ou telle moto à disposition des pilotes.
Il y a toute une logistique.
Ouais, il y a toute une logistique qui est monstrueuse derrière, complètement. Des mecs qui ne veulent pas que leur pilote aille rouler aux nations, c'est compliqué. Maintenant, si demain, je ne peux pas faire la sélection de pilotes que je veux, compte tenu de ma position en tant que sélectionneur, je ne vais pas aux nations.
Tu te casses.
Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller aux nations si j'ai un type qui m'impose, une fédération qui m'impose tel ou tel pilote? Si je ne peux pas mettre mes connaissances et ma vision en tant que sélectionneur pour le pays, à ce moment-là, je ne sers à rien. Si je ne sers à rien, j'en ai rien à foutre d'aller aux nations. Je suis bénévole. On me paye mon billet d'avion pour aller aux nations, on me paye mes frais. Mais ce que je veux dire, c'est que même ça me coûte un peu d'argent, des faux frais, des bordels, c'est comment c'est. T'as plein de trucs qui te coûtent un petit peu de sous, tu vois. Je le prends sur mes vacances, moi je suis pas embauché, voilà quoi, j'ai un travail à côté, tu vois. Donc si je vais aux nations tout seul, hein, je paye mon billet d'avion, je prends mon drapeau suisse, je vais encourager le team suisse. Mais si je peux pas faire la sélection que je veux, j'y vais pas. Ça m'est complètement égal, quoi.
Donc tu crois
j'assumerai pas. Ouais. Je ne veux pas assumer une équipe que je n'ai pas choisie.
Et tu crois que Pascal Finot, qui est donc notre sélectionneur, est dans cette situation?
Ouais, complètement.
Donc il approuve pas ce qui a été dit en haut,
ouais.
Mais il se retrouve dans la situation où il est obligé de.
S'il approuve, c'est lui qui fait le commentaire.
Alors qu'il a pas parlé.
Alors
Pascal.
Que moi, j'ai jamais vu dans aucune interview. Non. Maintenant, j'étais pas là les derniers jours.
Non, mais même, je peux le dire tout de suite. Il n'y a aucune interview qui passe avec Pascal Finot qui n'a pas été au préalable
validé
par la FFM.
Maintenant,
donc, il part du principe qu'il ne dit rien à personne. Voilà. Donc, tranquille.
Mais dans l'interview de M. Boll,
Si j'aime bien que tu dis Monsieur Ball.
Ouais, je dis Monsieur Ball parce que...
Il y a beaucoup de respect dans ce
film. Ouais, il y a du respect parce qu'il y a plein de choses aussi que je ne connais pas.
Tu peux l'appeler Jacques, hein. Je pense pas que ça...
Voilà, ouais, mais voilà, en Suisse, c'est un peu comme ça qu'on... Il y a aussi un côté hiérarchique.
Non, mais je te taquine.
Voilà, mais voilà, je dis Monsieur parce que j'aurais dit... Monsieur par rapport aussi à ma fédération, à la fédération italienne. Pour moi, il y a aussi des monsieur, mmh. Tu vois, à la fédération italienne, des mecs comme Corrado Madi à l'époque, c'était un monsieur, je veux dire, c'est des monsieur. Et Monsieur Rinaldi, tu vois, ça peut être Monsieur Gebourt, voilà, peu importe, pour qu'on mette bien le contexte.
Je te taquine, Marc.
Ouais, mais ça fait plaisir que tu me taquines, j'aime bien comme ça me permet de te répondre. Dans son interview, il dit, il assume quand même à quelque part, parce qu'il dit...
En même temps, il ne peut pas faire autrement.
Voilà, tu vois. Mais il dit pas, c'est un choix qu'on a fait à trois, voilà, machin, tout ça. Mais il met pas le sélectionneur français, si tu veux. Alors, on ne sait pas si c'est un sélectionneur ou un manager. Maintenant, on ne sait plus comment le positionner, Pascal. Mais ce que je veux dire, c'est que il pourrait dire, il a décidé de choisir ces trois pilotes. Il le dit pas. Il dit, on a décidé à trois. Avec des critères. Maintenant, si leur critère, c'est qu'à un moment donné, Marvin n'aurait éventuellement pas voulu aller se déplacer dans tel ou tel pays, c'est son critère. Et il a le droit de dire, par rapport à leurs critères au sein de la Fédération française de motocyclistes, de dire on prend des pilotes qui sont sélectionnables. Tout le temps.
Ouais. Donc ils sont motivés sur la longueur, c'est ça que tu veux
sur
dire.
Sur la longueur.
Donc c'est pour ça qu'on comprend peut-être pas le mot motivé.
Voilà.
Mais eux, alors on fait vraiment l'explication texte, hein, quand même. Hein. Mmh. On cherche vraiment à leur donner raison. Donc ils seraient pas motivés sur la longueur. Donc ça fait 3-4 ans qu'il est pas motivé.
Voilà.
Et donc on en garde ça.
On garde ça. Voilà. Mais ça, si tu veux, c'est un critère. C'est qu'il est discutable. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Maintenant, cette équipe-là, elle a gagné 3 ans, 4 ans de suite. C'est les meilleurs. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qui existe dans le monde. Elle a gagné 4 ans de suite. Elle a des critères. Et puis, elle se pose sur ces critères qui ont fait leur preuve. Donc, que dire par rapport à ça? Tu vois ce que je veux dire? Je parle du côté sélectionneur, critère. Donc, voilà, ils disent, Marvin, on le veut. Sois motivé. Motivé. On joue sur les mots. Hein.
Bien sûr.
Maintenant, normalement, quand tu as un appel de ton pays... Tu ne peux pas le refuser, en principe. Normalement, tu ne peux pas refuser une sélection. Quand tu roules ou tu concours, tu joues pour ton drapeau, c'est pour ton pays. Quand ton pays fait appel à toi, tu ne peux pas refuser une sélection de ton pays. Tu vois ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Quand tu arrêtes ta sélection internationale, tu l'arrêtes parce que ton pays est d'accord que tu l'arrêtes. Tu ne peux pas refuser de défendre ta patrie, normalement. Donc, suivant comment tu te positionnes par rapport à ce peut-être refus, moi, j'en sais rien, hein, je n'ai pas parlé avec Marvin par rapport à ça, mais tu te dois d'être motivé tout le temps de concourir et de défendre les couleurs de ton pays. Mmh. Si on fait la comparaison avec Tomac, à ce moment-là, avec ses critères, Tomac ne devrait pas être aux États-Unis. Simple. Parce que Tomac a refusé.
Pour des raisons qui sont les siennes. Hein.
Pour des raisons qui sont les
siennes. Je ne veux pas prendre l'avion.
Voilà.
La saison est super longue. Je ne veux pas rajouter un truc. Et en plus, dans les coulisses, où ça ne va rien me rapporter du tout.
Le pognon.
Je peux me blesser. Le Supercross, c'est quand même plus important que le Supercross des Nations, etc. etc. Ouais.
Mais l'Amérique veut gagner. Donc
passe outre ce critère bidon. Que j'estime bidon.
Voilà.
Mais maintenant, dans l'explication, je la valide aussi. Je pense qu'elle est bonne.
Alors moi, je dis pas qu'elle est juste. Ouais. Je dis que tu peux te positionner comme ça. C'est-à-dire en étant un amoureux de la France, un patriotique, suivant comment tu l'es, et de te dire, ok, ce pilote, à un moment ou un autre, moi, en tant que Suisse, si un de mes pilotes me dit, je refuse d'aller en Lettonie ou je refuse d'aller en Russie, parce que ça me fait chier d'aller faire les nations là-bas. Moi, si un pilote il me dit, écoute Marco, j'ai envie d'aller aux États-Unis et en Suisse et en France parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a 30 000 personnes, et puis que sur 10 ans, il me refuse cette sélection, à un moment, je vais lui dire, écoute, tu sais quoi, le jour où il y a un pilote plus fort que toi, tu dégages, mon pote.
Sauf que c'est pas le cas.
Sauf que c'est pas le cas. Mais c'est un exemple, tu vois. Après, je sais, peut-être qu'un sélectionneur ou un président de fédération, dans sa tête, ne va pas tolérer une seule réponse négative de la part de d'un appel à la sélection. J'en sais rien. Je suis juste en train
ouais,
de.
Mais tu vois comme dirait DV, c'est de l'émotif, ça.
Ouais.
Mais on gagne pas sur ça. On gagne pas.
Donc maintenant, si tu me poses la question.
Les motifs, encore une fois, dans le football, machin, casser des raquettes, etc. Tu gagnes rien au final avec ça. Donc les motifs de dire, écoute, écoute, mec, t'es pas venu, t'as pas voulu, tu nous as fait des. Etc. T'as refusé. Là, t'y vas pas.
Voilà.
Mais c'est pour moi, encore une fois. C'est un truc de gamin.
Ça joue pas.
Non. Un truc de gamin. Comme on dit aux États-Unis, nothing is personal, it's business.
Yeah.
C'est ce que, la décision que j'ai prise, je l'ai pas prise pour te faire chier. Je l'ai prise parce qu'à ce moment-là, je voulais pas. C'était pas le bon moment. J'étais blessé, je voulais, j'avais d'autres objectifs, etc. Mais maintenant, quand c'est le moment, je suis là. Donc prends-moi.
Mais complètement.
On oublie ce qui s'est passé avant.
Mais maintenant, si tu me la poses la question par rapport à comment moi je vois les choses. Directement, là je te mettais dans une position, je parlais dans une position, essayer de donner une explication à une explication peut-être plausible à une non-sélection.
Mais je pense que c'est vraiment la première qu'on ait. On n'avait pas été aussi loin avec EDV, je suis content qu'on ait cette conversation, parce que c'est vrai qu'avec le recul, on peut penser que c'est ça, et que cette motivation elle est sur plusieurs années. Mais à ce moment-là, sois clair, dis-le.
Il faut le dire. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, c'est simple. Demande-moi comment je vois les choses par rapport à cette non-sélection. Au-delà de cette possible explication, moi, je vois un pilote. Si tu prends une feuille blanche, tu mets 4 pilotes sur la liste, tu mets Erlings, Tomac, Marvin Musquin, Anto De Chiroli, et tu en rajoutes un cinquième, tu mets Ken Roczen. Tu ne peux pas faire les nations sans ces mecs. Notre sport tourne autour, et tu vas rajouter Anderson après, mais tourne autour de ces mecs-là. Sans ces mecs-là, motocross n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, en cette année 2018. Le fait que Marvin ne soit pas aux nations, qui plus est aux États-Unis, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Ça peut être même de l'arrogance maximum de la part de la France. Une arrogance sans précédent. Mais à ce moment-là, tu le dis. Tu dis, écoute, tu sais quoi ? Nous, le meilleur pilote actuel en France, on s'en bat les couilles. Tu vois ? Mais tu le dis. On s'en branle de Marvin Musquin. On va vous la mettre sans lui.
Ce qui serait fort quand
voilà.
même.
Voilà. Mais à ce moment-là, tu le dis. Et tu assumes ton arrogance auprès de toutes les autres nations. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu peux pas ne pas sélectionner Marvin Musquin. C'est pas possible. Après, tu as un autre aspect. T'as un manque d'humilité. Un manque d'humilité totale. Mais le manque d'humilité, ça peut être un manque de compétence totale de la part de la fédération, de cette fédération. Ça veut dire d'imaginer gagner sans lui, de le non sélectionner volontairement, c'est que tu connais pas la moto. Et là, c'est pas moi qui le dis. Je rejoins JMB, je rejoins Pichon, je rejoins David. Et tous les autres qui le pensent qui n'ont pas osé le dire, tu vois. Mais quand tu as les mecs qui ont écrit l'histoire du motocross, parce que JMB, il a écrit l'histoire du motocross, je veux dire, Michael d'une manière aussi, DV d'une manière aussi, et surtout du motocross français. Quand ces mecs-là disent que c'est une plaisanterie, comment tu vas aller contre ça? Comment tu vas aller...
Ouais, mais en même temps, une fois que tu as pris la décision, voilà quoi.
Voilà.
C'est réglé. Tu peux pas revenir dessus.
Tu peux pas.
Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à creuser ton propre trou.
Mais c'est une blague. Le fait que Marvin Musquin ne soit pas aux nations aujourd'hui, sportivement, dans tous les sens du terme, c'est une blague. Après, il y a peut-être de la politique derrière, tu vois. Mais là, on est en train de mélanger la politique et le sport. Et je te rejoins dans ce que tu disais. Ça veut dire qu'on est en train de par de l'émotion ou par un problème qu'il aurait éventuellement eu, on ne sélectionne pas le mec que tu vas mettre sur la liste en deuxième ou troisième. Mmh. Le mec qui a la première place, qui est indiscutable. Ce pilote, aujourd'hui, est indiscutable aux nations.
Donc maintenant,
qu'on aime, qu'on n'aime pas.
S'il gagne.
Bah, s'il gagne,
On passera pour des cons ou...
Non.
S'il gagne, les mecs vont nous dire, ils vont nous dire, vous voyez, on avait raison.
Mais aujourd'hui.
Parce qu'encore une fois, nous, on parle de tout ça.
Et vous avez gagné avec un enduriste, vous pouvez gagner avec n'importe qui, les mecs.
Exactement.
Non, mais la vérité, elle est là.
la vérité, si je mens. Voilà. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que. On parle de ça, mais l'équipe, elle est là. On la respecte.
Ouais.
Elle est là. Ils ont fait un choix. Malgré tout ce qu'on peut dire avec DV ou même GMB, je pense qu'on est tous sérieusement derrière cette équipe.
Mais tout le monde.
On n'est pas à lui cracher dessus, à dire vous êtes des merdes, etc. On en parlait off tout à l'heure avant qu'on enregistre. Gauthier, c'est un mec très bien. Romain et Dylan, tiens, on est tous derrière vous.
Mais pas seulement eux, tous les autres derrière. Vous respirez la France. Moi, je le sens avec toi, je le sens avec David, je le sens avec tous les Français. Vous respirez la France. Moi, j'y vois pas du tout de l'extérieur comme un manque de respect à l'équipe de France, même en tant que sélectionneur. Pour moi, vous soutenez votre équipe, vous relevez la non-sélection d'un pilote qui doit être sur place. Ça veut pas dire que vous soutenez pas la France.
Exactement. Mais encore une fois, c'est à chaque fois je veux le répéter parce que les gens un peu moins, mais bon, on nous avait dit ouais, le problème c'est que vous dites que vous tapez sur Gauthier, etc. On tape sur personne. On est juste en train de...
Gauthier, c'est un dommage collatéral du truc.
Pas
de problème par rapport à ça. Maintenant, je parlais de manque d'humilité avant. Si tu me disais, la France, si elle gagne, mais...
Elle peut gagner complètement.
Je vais dire, la France, si elle gagne, derrière... T'as un nombre de pilotes aujourd'hui en France de talent. Quand je vais dire de talent, c'est pas le talent inné. Hein. Ils sont tellement bons. Dans tous les championnats, tu prends du 60 cm cube, 65, du 85, 125 de temps, EMX2, quand t'es au début de l'année, que t'as Moreau qui est sur le podium, que t'as Vial qui est sur le podium, que t'as Goupillon qui est sur le podium, que t'as des mecs encore en MX2, même si voilà... En mix 2 en ce moment c'est un peu difficile, tu vois, mais ces mecs là peuvent aller aux nations, crois-moi, ces mecs là sur les nations ils peuvent rouler, hein. Ces trois mecs que je viens de te citer avec un bon départ sur un motocross des nations, ils peuvent bien rouler, c'est une possibilité. Mais il y a un tel réservoir de pilotes que quand tu vas chercher un enduriste, que tu le ramènes là, que tu gagnes les nations, si tu veux, je trouve que c'est un manque d'humilité dans le sens où ça rigole en ce moment, ça rigole pour la France, ça rigole, il y a tellement de pilotes derrière. Ça rigole. S'il y a lui qui se blesse, il y aura lui. S'il y a lui qui se blesse, il y aura lui. S'il y a un autre qui se blesse, il y aura encore lui. Franchement, vous avez 10 pilotes derrière. Oui, les 10 pilotes, ils n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le niveau de Marvin, on est d'accord. Mais si tu dois aller rechercher un Charlier, tu peux aller rechercher un Charlier. Tu peux aller prendre un Méo. C'est pas un problème. Non, mais c'est pas un problème. Et c'est là que je trouve que c'est un manque d'humilité d'une certaine manière. C'est que la France, elle peut gagner. Elle a des cartes en main. Elle a tellement de cartes en main. Et c'est là que c'est un manque d'humilité, c'est un manque de respect par rapport à Marvin. Moi, je trouve, perso. J'ai pas grand chose à ajouter, je crois que j'en ai assez dit. Mais je tiens quand même à dire un truc. Moi, j'ai rien du tout contre Gauthier. Parce que c'est vraiment un dommage collatéral par rapport à ça. Et il est pas responsable de ça. Et il faut pas oublier Gauthier, ce qu'il a donné à la France. Faut surtout pas oublier ça, parce qu'il a été bon, le gaillard. Il a vraiment été bon.
Et toi, en tant que sélectionneur de l'équipe suisse, t'as quoi comme carte en main? Tu peux nous dire un peu?
Alors. Moi, la question, elle est vraiment différente. Nous, on a.
T'as des bons pilotes quand même.
On a des super bons pilotes.
T'as une bonne équipe.
Ouais, ouais. Moi, je suis super fier de mes pilotes.
Alors, c'est qui alors?
Alors, cette année, ce sera Jérémy Siver en tant que capitaine.
Ok, donc MX1
MX3.
Ok.
MX3 à Jérémy Siver parce qu'on va jouer la gagne dans cette catégorie.
D'accord, ok.
Parce que bon, les concurrents à MX3, ce sera Barcia, ce sera Gauthier. C'est faisable pour nous avec Jérémy Siver. On sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà, que ce soit Gauthier ou que ce soit Fèbre, Jérémy Siver roule super bien, il fait dans les 5-6 en MX1, donc il est là pour jouer la gagne. L'année dernière, il a fait 3 à la qualif en MX3, donc il n'y a pas de raison que cette année, avec un an de une saison de MX1, il soit pas devant. Ensuite, on va rouler avec Valentin Guillot en MX1, s'est blessé dernièrement à l'omoplate. Mais on va le mettre dans les super conditions pour être présent. Il va tout donner, il va être motivé. Surtout que c'est moi qui vais le driller aux nations et je peux dire que je sais comment il fonctionne, donc ça va jouer. Et on a Kylian Auberçon en MX2 qui va récupérer une super moto du team. C'est quoi? C'est Rock Mountain? Dis-moi.
Ouais, Rocky Mountain.
Rocky Mountain. Voilà. Donc il va récupérer une super moto. Donc ça, c'est top. Donc voilà nos trois pilotes. Arnaud nous a donné la réponse il y a un peu plus d'une semaine, qui pourrait pas être au Nasson suite à ses blessures des deux épaules qui mettent plus de temps que prévu. Mais on attendait sur lui. Kylian le savait. Il savait que notre premier choix était le choix de Arnaud et que lui, il venait ensuite. Et de manière très humble, il l'avait totalement compris.
C'est sa première participation, Kylian ?
À Kylian, c'est la deuxième.
C'est la deuxième.
Il a roulé aussi en Allemagne. Et donc c'était quand Arnaud était, je crois que c'est Arnaud qui était blessé cette année-là. Mais les choses sont hyper transparentes. Si tu veux, moi, quand je discute avec les pilotes, il n'y a pas de problème. Écoute, mec, simple. Les trois pilotes que je veux aux Nations, c'est eux. Parce que mes critères sont ces critères-là. Et moi, il y a un critère, par exemple, qui est important pour moi, c'est le fait que les pilotes aillent un peu à l'étranger rouler. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux pas qu'ils restent tout le temps en Suisse et qu'ils fassent que 8 courses dans l'année de championnat suisse. J'ai envie qu'ils se déplacent.
Ce que fait Kylian très bien en Supercross.
Kylian, il va aux US, il se déplace, il investit, il s'investit.
Il a bien roulé d'ailleurs cette année, il a fait quelques bonnes manches.
Ah, il a fait des bonnes manches, ouais. il a fait que des finales. Mm-hmm. Il a fait que des finales, je veux dire. Tu l'as vu quand il a été à Houston, je crois que c'était Houston, il est parti avec son pote.
Il fait le all shot.
Le mec, il part tout seul, il a un guidon de rechange, il a rien. Il se déplace, il y va, il s'investit. Il se donne. Baumgartner s'entraîne avec De Maria. C'est aussi une manière pour moi de s'investir. Moi, je vais les voir rouler sur 5-6 courses dans l'année. Je regarde comment ils se comportent. Mais il faut savoir qu'au début de l'année, tous les pilotes sont sélectionnables. Parce qu'il y a peut-être des romans, des Suisses qui parlent français qui entendront ça. La place, elle n'est pas figée pour Siver, pour Tonus, pour Valentin Guillaume, pour Robertson, pour Baumgartner. Tous les pilotes suisses, à la base, peuvent accéder à représenter leur pays au motocross des nations. C'est important de le souligner. Parce que avec ce qui se passe dans la moto, tu peux avoir trois meilleurs pilotes blessés. Tu vois, et tu devras faire appel à trois autres pilotes. Et ce qui est important, c'est que c'est pas parce qu'on a trois bons pilotes et qu'on va aller aux États-Unis cette année et qu'il n'y ait pas, par exemple, Tonus et qu'on va peut-être pas jouer le podium entre 3 et 5, on va peut-être jouer entre 5 et 7. Tu vois. Mais ça ne veut pas dire que le jour où on va jouer la qualif, qu'on ne doit pas emmener de pilote. Moi, j'y vais de la même manière. Parce que le gars que je vais sélectionner, c'est un mec qui, depuis ses 5 ans, ses 6 ans, il aura dépensé du pognon, il se sera investi, ses parents se seront sacrifiés pour qu'il puisse faire ce sport, que lui, il aura défendu les couleurs de la Suisse au championnat d'Europe, au championnat du monde. Et un jour, il aura peut-être l'occasion d'aller aux Nations. Et là, tu lui dis au mec, « Ah non, on ne va pas y aller parce que tu n'es pas capable de faire dans les 20 premiers. » Mais qui en est pour dire ça ? Mm-hmm. Tu vois ce que qui moi je suis en tant que sélectionneur de dire mm-hmm. Ah non, j'emmène pas de pilote cette année parce que le team n'est pas capable de passer la qualif. Mm-hmm. Elle passera pas la qualif. Peut-être dans 2 ans, elle se passera pas la qualif. Peut-être dans 3 ans, 5 ans, quand tu auras plus Siver, quand tu auras plus Tonus, quand tu auras plus Guillaume, bah peut-être qu'on aura une équipe qui fera 25e. Mm-hmm. Et il est où le problème ? Tu vois ce que je veux dire ?
Quels objectifs tu t'es donné ?
Écoute. Nous,
les nations, c'est un peu spécial. Quand
les
même,
nations, hein. C'est spécial, mais
tu peux pas. C'est difficile à pronostiquer. Le temps. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu.
Il
hein.
y a quelques années, l'Allemagne, elle a gagné. Elle aurait pas dû gagner avec l'équipe qu'elle a gagnée. Mmh. Elle a gagné. Si l'Allemagne a gagné cette année-là, la Suisse, elle peut gagner. Elle aurait pu gagner l'année dernière. Elle aurait pu gagner il y a 2 ans. Maintenant, c'est simple. Souvent, les mecs ils disent ah putain, la Suisse, elle aurait mis de faire dans les 3 premiers. Non. L'année dernière, il y a 2 ans, elle n'aurait pas mérité de faire dans les 3 premiers. C'est simple. Si tu veux faire dans les 3 premiers, tu dois mettre un pilote dans les 3 premiers de manche, sur ces 2 manches. C'est mathématique. À un moment, ça ne sert à rien. Les Suisses, on sait calculer. Mm-hmm. Donc, je veux dire, tu sais pourquoi je te dis ça, qu'on
bien
sait
sûr,
calculer.
Bien sûr.
On dit souvent les prénoms sous, machin, tout ça, on sait calculer. Pas de problème.
Les millionnaires.
Voilà, on est millionnaires, on est milliardaires, voilà.
Vous êtes sponsorisé par Rolex encore ou pas ouais,
par Rolex, par Tissot, par machin. Le jour où l'équipe de Suisse elle est sponsorisée par une banque ou par une marque de montre, c'est le jour où il n'y aura plus de tennis, il n'y aura plus de ski, il n'y aura plus de hockey, il n'y aura plus de football, qu'il n'y aura plus que les sports motorisés qui existeront en Suisse. Donc ça veut dire jamais.
Ok, on n'est pas là.
On n'est pas là, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le jour où on fait un podium, c'est le jour où Tonus, c'est le jour où Siver, c'est le jour où Guillaume, c'est le jour où un Suisse va se battre avec Kiroli, avec Erlings, avec Roxen, avec Marvin et avec Tomac. Tant qu'on n'aura pas de Suisses qui seront capables de se battre pour un top 3 de manche, on ne pourra pas faire dans les 3. Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'on marque sur deux manches, tant qu'on marque 15 points sur deux manches, c'est mort. Mmh. On doit marquer 10 points maximum sur la manche où on a nos deux pilotes. Mmh. C'est mathématique, c'est simple. Mmh. Donc oui, c'est possible. Parce que énervé, un Tonus, un Siver et un Guillaume, on va dire surtout, on va dire avec la forme du moment, pour reprendre ces trucs de forme du moment comme l'année dernière, Siver et Tonus, ils peuvent faire 3 et 4 sur une manche de nation. On le sait. Maintenant, Red Bod, attention, il y a des sauts et risque de pleuvoir. Il peut pleuvoir. Il pourrait éventuellement.
Il pourrait.
Au mois d'octobre.
Il pourrait. Cela dit, j'ai regardé un peu, j'ai fait un peu mon boulot de journaliste.
Ouais.
Il n'a pas plu depuis 3 ans à cette époque-là.
Ok. Alors.
Il y a eu une grosse tempête il y a 4 ans.
Voilà, une grosse tempête. Mais dans des conditions.
Je veux dire par là qu'en début octobre, dans le Michigan, à Red Bud, le temps n'est pas prévisible. Il peut faire super beau, comme effectivement il peut avoir.
Ils
ont eu la semaine dernière, ils avaient une course, ils ont eu un orage de fou qui est passé au-dessus du terrain. Mais quand ça pleut, ça pleut. Hein. Je veux dire, ça défonce tout et après c'est fini. Mais bon, encore une fois.
Donc nous, par rapport à ça, on a un peu. On a des pilotes qui roulent bien dans la boue, notamment Kylian Oberson. Qui a une. Parce qu'on va dire que c'est le troisième pilote actuellement dans notre team. Il le sait. Mais ça peut devenir le premier dans des conditions extrêmes.
Bien sûr.
Parce que lui, dans la boue, il s'est roulé, attention. Mmh. Donc, il nous fait la preuve à toutes les courses en Suisse. Il a un style de fou. Il roule à son rythme. Il n'a pas besoin de mettre un rythme trop, trop élevé. Mmh. Donc, ça peut devenir notre pièce maîtresse, tu vois. Donc,
de toute façon, la boue, c'est toujours un beau spectacle. Hein. Ça permet de voir un peu ceux qui sont jamais devant ou qui sont peu devant d'être devant. On a vu Théier justement qui a fait une super manche à Ironman. T'étais déjà à Burning Man ou pas? Oui, c'était la dernière.
Ouais, j'étais déjà, j'ai pas vu, tu m'apprends ça.
Non, qui fait 9e.
Ah bon?
Théier arrive, il débarque, moto au stock, rincé, 50 heures, machin. Il met les kits dessus, il fait 10 et 9.
Voilà.
10 et 8 pour 9 au final. C'est bien. 4,5, c'est top. Parce qu'il a su profiter de ces conditions climatiques qui étaient un peu désastreuses. Et je pense que à Red Bud, si c'est le cas, c'est du spectacle.
C'est du spectacle et c'est une possibilité, tu vois. Donc par rapport au pronostic, ben voilà quoi. On a un pilote, comme je disais, qui va jouer la GAN les 3 premiers, qui est Jérémy. Ensuite, Valentin, on verra dans les conditions dans lesquelles il va arriver. Mais moi perso, j'aime bien les coups de poker. Faut arrêter ce style suisse, si tu veux, à jouer placé. Moi, je m'en bats les couilles d'être dixième. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est soit on fait...
Attention, si ton boss t'écoute, attention. Hein.
Non, mais ils le savent. Sinon, tu ne me nommes pas à ce poste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis nommé à ce poste. J'aime prendre des risques. J'ai sélectionné Siver quand il avait 17 ans. C'est moi qui lui ai fait sa première sélection. Au Motocross des Nations en France, à Saint-Jean-d'Angély. J'ai sélectionné aussi Valentin Guillaume, je l'ai emmené aux États-Unis, il avait 17 ans. Et Arnaud Tonus, alors c'est pas moi qui l'ai sélectionné, j'avais roulé avec lui à Bots Creek à l'époque, il avait 16 ans. Donc, on n'est plus dans l'équipe de Suisse qui a 20 ans en arrière où il prenait des mecs de 30 ans parce qu'ils voulaient jouer placé. C'est fini ça. On a le meilleur de l'équipe de Suisse, c'est une 5e place. C'est soit on va pour battre notre résultat, soit on finit derrière. Mais on doit prendre des risques. On doit prendre des risques tant qu'on a des pilotes qui peuvent jouer les premiers rôles. Tu vois ce que je veux dire? Et si demain, j'ai le choix entre prendre un pilote de 30 ans et prendre un pilote de 15, je prends un pilote de 15. Tu vois? Et puis, il fera 0 et 0. C'est une possibilité, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est promouvoir notre sport, donner l'opportunité à des jeunes de progresser, de goûter aux nations. Quand tu goûtes aux nations, ça te donne l'envie de continuer dans ce sport. Parce que tu roules pour ton pays, tu roules avec les meilleurs pilotes du monde et tu te rends compte vraiment sur cette course ce qu'est la motocross. Il n'y a aucune course qui ressemble aux nations. Aucune.
Non, c'est vrai.
C'est les nations.
Et d'ailleurs pour conclure, si je t'ai demandé tes objectifs pour la Suisse, tu vois qui gagner au final?
Moi, je vois les States.
Ouais.
Ouais. Moi, je vois les States parce que.
Tomac, Barcia, Plessinger, on a un team de fou là.
Moi, je crois, ouais.
Chez eux.
Moi, je crois que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un team aussi costaud du côté des États-Unis. Blessinger.
Chez eux en plus.
Il est heureux. Ouais, ils sont chez eux.
Les ventes de tickets sont. C'est un truc de fou.
Ouais, j'ai vu que c'était la folie.
C'est la folie.
Redbud, c'est Redbud.
Voilà.
Quand tu vas regarder en outdoor, qui ne veut pas aller voir Redbud? Donc, Blessinger, il est sur un nuage. Il est sur le même nuage, entre guillemets, que Febvre était quand il gagne. Quand il gagnait Herné. Le mec, il était intouchable. Il était au-dessus du monde à ce moment-là. Blessinger, alors voilà, il vient du 2,5, mais il a gagné le championnat de Supercross, il a gagné l'outdoor.
Il fait le doublé, il est obligé de se prendre les nations pour finir.
Et bien sûr.
Avant de passer en catémie en plus.
Exactement, lui, il va tout donner. Barcia, c'est un survivant. Moi, j'adore ce mec. Mais survivant complet. Il y a 3 ans en arrière, il avait cartonné Herné. Il avait fait vice-champion US. Il y a 2 ans en arrière, on lui crachait sur la gueule. Tu vois, je veux dire, cette année, il avait pas de moto, il avait rien. Et là, c'est un survivant, il a re-signé, il va rouler devant, faut pas rêver. Barcia, c'est un patriote, tu vois. Et puis Tomac, c'est Tomac qui fait le travail, quoi. Donc c'est un comme un Marvin. Il va pas sur une moto pour être derrière, il va sur une moto pour gagner. Donc voilà, quoi.
Ça va être une belle course. Ouais. On est à 30 jours, là.
Ouais. Enfin,
vous allez écouter ce podcast vendredi, qu'on en est à 29 jours. Ça passe vite, hein. Mais on en parle depuis longtemps. Ouais. Et là, ça va être là bientôt.
Ça passe vite. Nous, on compte de notre côté parce que, comme je disais, il faut que Valentin il soit top parce qu'il est un peu blessé. On est en plein préparatif parce que au niveau logistique, c'est l'enfer. Les billets d'avion, les machins.
C'est pas facile, hein, quand c'est à l'étranger comme ça, aux États-Unis.
C'est compliqué. Nous, on a un budget en plus super limité, donc c'est chaud. Donc, on est en train de faire en sorte que ça joue. Dès que t'es un pilote blessé, c'est compliqué parce que la moto elle part. C'est des milliers d'euros que tu mets dans le vide, tu vois. Donc voilà. Donc, on verra. Mais en tout cas, moi en tant que sélectionneur, je suis à bloc derrière mes pilotes. Pierrick Paget qui s'occupe de la logistique, il est à bloc depuis 3 mois. Il fait des trucs de fou. Il bosse comme un dingue. Il se rend pas compte derrière. Il y a beaucoup de travail. On est que deux. Donc il y a aussi sa femme, Lulu Paget, qui bosse grave. Donc on va dire on est 3 à vraiment s'occuper des nations. Donc
on leur fait un petit coucou d'ailleurs.
Ouais, on leur fait un Pierrick. Coucou. On embrasse Pierrick, Lulu Paget, tous les Suisses qui remercient tous les Suisses qui ont participé au crowdfunding, qui ont acheté des maillots dédicacés, des répliques, des casse réplicas. On a vraiment bien bossé par rapport à ça. Donc il y a plein de Suisses qui nous soutiennent, les sponsors privés, tout le monde, la fédération qui a fait un effort monstrueux. Par rapport au peu, faut le dire, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais en Suisse, on a très peu de membres à la fédération. On a 4000 membres à la fédé, pas tous actifs, ok, faut le savoir. Les prix des licences, c'est la moitié moins qu'en France, il y a très très peu d'argent. Alors oui, il y a de l'argent en Suisse, c'est indéniable, il y a beaucoup d'argent en Suisse. Il y a beaucoup d'entreprises, de sociétés en Suisse.
Faut pas tout mélanger non plus.
Mais faut pas tout mélanger. Tu parlais de Rolex avant, tu parlais des banques.
Je peux parler des Villars aussi.
Tu peux parler des Villars, mais Villars fait partie des petits du monde horloger. Mais si la Suisse est comme elle est aujourd'hui, c'est qu'elle met de l'argent là où il y a de l'argent, là où tu fais de l'argent. Okay. Après, c'est du mécénat. Alors, il y a plein de mécènes qui ont mis de l'argent à un moment dans la moto, mais ça tourne. Ça met beaucoup dans la culture. Il faut savoir qu'entre le sport et la culture en Suisse, ce sera jamais comparable. Il y aura toujours beaucoup plus d'argent dans la culture que dans le sport.
Je voudrais finir ce podcast. Je sais pas si tu veux en parler, mais c'est un truc qui me tient un peu à cœur. Mathias Bellino, j'aimerais dire deux mots. Il est dans une mauvaise passe. Il s'est blessé donc.
Dis-moi un peu les news à ce jour, si tu sais un peu où.
Parce que
ça s'est passé quand j'étais loin.
Voilà, donc apparemment il est paraplégique.
Ouais.
Donc il est toujours à l'hôpital et il est en train de revenir. Enfin, tout ça c'est compliqué pour l'histoire d'assurance, etc.
Il est où maintenant? Du coup, il est toujours là.
Oh, il est toujours là-bas, ouais.
Okay.
Et donc j'ai envie de te demander à toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire là aujourd'hui à Mathias? C'est des moments qui doivent être terribles. Il a dit sur son post Facebook que quand il est tombé, il a tout de suite su.
Ah, tu sais tout de suite.
Parce que et c'est marrant, c'est pas marrant, ouais. Mais tous ceux avec qui j'ai parlé, c'est là, ils savent.
Ouais, tu sais.
Tu sais.
Ouais.
Et maintenant, tu sais, t'es à l'hôpital, tu rentres, t'as une nouvelle vie qui commence. Et toi, qu'est-ce que t'as envie de dire à Mathias aujourd'hui? Quel conseil? Alors ça peut paraître débile, mais est-ce qu'on donne des conseils? On a envie de lui dire, t'inquiète pas, ça ira, mais il y a rien qui
Tu peux pas dire ça ira. Tu peux pas dire de ma position, hein, tu peux pas dire la vie, tu peux pas dire que la vie est belle, qu'il y a plein de choses à découvrir dans la vie. En fait, concrètement, tu peux rien dire. Parce que c'est la paraplégie est quelque chose, la paraplégie, la tétraplégie est quelque chose d'inimaginable. Dans le sens où la tétraplégie de Michael Musquin, je ne pourrais jamais l'expliquer, la comprendre, parce que c'est quelque chose qui se vit. Maintenant, la paraplégie de Mathias, c'est quelque chose qui va vivre, c'est quelque chose qui va, il va devoir s'adapter, il va devoir s'ouvrir sur l'extérieur. La seule chose que je peux moi dire en tant que paraplégique, c'est regarde les choses de manière profonde. C'est-à-dire regarde avec le plus d'ouverture le monde qui s'offre à toi et ne te mets pas de barrière. C'est la seule chose que je peux lui dire. Qu'il soit heureux, pas heureux, qu'il fasse des choses, pas ou pas, ça va dépendre du regard qu'il a sur le monde avec la vision qu'il va avoir aujourd'hui. Une vision qui va être différente parce qu'il ne va pas regarder les choses de la même hauteur. On est plus bas, on voit les choses de manière différente et les gens nous regardent de manière différente. Donc ça, il devra s'adapter. S'adapter à ça. Et suivant comment lui va regarder le monde, ça va lui donner des possibilités. Mais c'est seulement comment lui va regarder le monde. Il peut le regarder de deux manières différentes. Il peut le regarder de manière ouverte ou de manière fermée. Il peut regarder tout ce qu'il ne peut plus faire ou tout ce qu'il peut faire. Je lui souhaite de regarder tout ce qu'il peut faire et pas tout ce qu'il ne peut plus faire. Moi, c'est comme ça que j'ai regardé le monde qui se ferait à moi. Et j'ai décidé d'aller où je voulais aller et pas où on me disait d'aller. J'ai été contre les gens qui me mettaient dans une case, la case d'handicapés, d'infirmes, de personnes limitées. J'ai fait une Spartan Race de 27 km cette année. Je suis allé à Burning Man. J'ai fait des courses de handbike. Je refais de la moto. Je suis sélectionné en motocross des nations. J'ai passé un bachelor en management communication marketing. J'ai fait plein de choses. Parce que c'est pas parce que j'étais plus intelligent qu'un autre, loin de là. C'est parce que j'ai regardé la vie de manière la plus ouverte possible, en acceptant les coups que je me prenais. J'en ai pris plein.
Le regard des autres, il existe toujours ?
Il existe toujours, suivant les pays. Ouais. Aux États-Unis, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est pour ça que tu adores ce pays.
J'adore ce pays. Ouais. C'est simple. Je suis tout seul, là, je suis seul pendant deux jours. J'ai envie d'aller là, je vais là. J'ai envie d'aller là, je vais là. Les mecs, ils m'aident. Ils comprennent ma chaise.
Il y a des rampes.
Il y a des rampes de partout.
Il y a des parkings partout.
Ouais, j'ai envie d'aller pisser, je peux pisser. Pas de problème, les gens sont cool, c'est cool. En Europe, c'est beaucoup plus difficile. Tu peux pas partir tout seul, tu peux pas louer une bagnole. Tu prends l'avion, c'est le bordel. C'est compliqué.
Et on pourrait finir, on a commencé par Burning Man, on pourrait finir là-dessus.
Ouais.
Parce que justement, à Burning Man, tu retrouves pas ce regard des autres, ça existe pas.
Non, du tout.
Ah, t'as été à Burning Man, chaise ou pas, t'étais à poil, t'étais peint, tu t'es éclaté, t'as pas dormi, t'étais sale. T'étais comme tout le monde, quoi.
Voilà.
C'est, on aurait presque envie d'un Burning Man tout le temps, non ?
Mais ce serait magnifique. Si tu veux le Burning Man, pour dire un mot, c'est imagine, t'as l'apocalypse et tu perds tout ce que t'as ici. Tu perds ta baraque, tu perds ton identité, tu perds tes vêtements, tu perds le fait que tu sois crossman, musulman, catholique, tout ce que tu veux, on s'en fout. Et tout le monde repart à zéro. Et tout le monde, il y en a un qui aime bien le rose, il met du rose. T'en as un qui aime bien le rouge, il aime bien le rouge. T'en as un qui veut se balader à poil, qui veut se fixer des piercings sur la pioche, il se fixe des piercings sur la pioche. Que tu aies 80 ans, que tu aies 2 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 15 ans, que tu sois crossman, footballeur. Tu vois, c'est comme les mecs qui en mettent plein la gueule, le footballeur. Mec, qu'est-ce que t'en as à foutre que le mec il kiffe le foot ? Qu'est-ce que t'en as à foutre qui se roule par terre ?
Ou qui gagne des ronds ?
Il gagne des ronds. Il a choisi de faire le foot, il gagne des ronds. T'as choisi de faire de la moto, de prendre le risette paraplégique. C'est qui est le plus intelligent ? Celui qui a choisi d'être paraplégique ou celui qui a choisi de se péter un orteil ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc arrêtons de critiquer les autres, arrêtons de dire que c'est des connards. Et c'est ça Burning Man, c'est qu'en fait t'es personne et t'es tout le monde. Et c'est ça qui est beau. Et puis j'encourage les gens à participer un jour à cet événement incroyable. Et puis que ceux qui kiffent la moto kiffent la moto, ceux qui kiffent le foot kiffent le foot, ceux qui kiffent le tennis kiffent le tennis. Puis on va aller aux Nations, puis ça va être super. Et puis on va rouler dans la mer, dans la boue, il va faire une tempête. Et la Suisse va gagner les Nations. Et puis on finit là-dessus, puis c'est splendide.
Si t'es personne, t'es tout le monde. J'aime bien ce concept. En tout cas, une grosse pensée à Mathias Bellino.
Pensée à toi, Mathias. Moi, je vais lui. Je lui ai encore pas écrit. Parce que c'est même pour moi délicat. Surtout pas lui donner des leçons, même si je peux comprendre certaines choses qu'il vit. Mais je vais lui écrire au moment où ce sera le moment d'écrire. parce qu'il y a l'étape de maintenant et l'étape d'après qui est importante. Donc je vais être peut-être plus présent à l'étape d'après.
Merci beaucoup en tout cas Marc d'avoir été mon invité pour ce 71e podcast. C'est toujours un moment de plaisir de discuter ensemble.
Merci à toi Steph, une salutation à DV, j'embrasse. Et puis je dois lui amener un lave-glace aux Nations, donc j'espère qu'il sera là. Il sait pourquoi je dis ça, certaines personnes savent aussi. Donc je veux te voir et je te laverai les carreaux de ton pare-brise. Les carreaux de ton pare-brise avec un lave-glace et tu me fileras $1. Arrête bonne, j'espère te voir là-bas.
Mais nous on se voit là-bas en tout cas, on sera, le Big sera là-bas bien sûr, une bonne partie de l'équipe en tout cas pour couvrir ce qui est parti pour être la plus grosse course de l'année. Donc on se voit à Redbone et on fera un podcast à Redbone, on a un peu de temps peut-être.
Ouais. Avec plaisir.
On fait ça.
Et salutations à tous les Français, à tous mes compatriotes suisses et encouragez-nous pour les Nations et puis bonne chance à tous pour cette course et salutations à tous sur le Big USA.
Merci beaucoup les gars d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve, c'est la rentrée sur lebigusa.com. C'est encore un peu calme mais l'actualité ne s'arrête jamais donc on se retrouve sur le site. À bientôt, ciao.
Ciao.